Are you not wearing a bra? And you want me to notice? If this was a movie, I'd grab you and we'd go at it right in the stacks.
Bienvenue dans J'ai pas sommeil, le podcast pop culture et féministe. Je suis Sophie Gliocas, je suis autrice, et aujourd'hui je vous retrouve pour ce tout premier épisode qui me tenait vachement à cœur parce que j'avais envie de vous parler d'un sujet qui peut avoir tendance à créer quelques divergences d'opinion. Je voulais vous parler des mecs toxiques dans la fiction. J'adore les mecs toxiques dans la fiction. Voilà, c'est dit. J'adore Spike dans Buffy, j'adore Ruskell dans True Detective, je crush souvent sur le méchant, voire le très très méchant, et j'aime beaucoup les récits qui racontent des romances toxiques. Mais attention, j'apporte une précision avant de commencer ce podcast, parce que je suis féministe et donc j'entends arriver les reproches. Je n'aime pas les romances avec des mecs toxiques qui se terminent bien. Déjà, je trouve ça rarement cohérent, rarement réaliste, et puis c'est pas ce que je trouve le plus intéressant d'exploiter dans ce genre de fiction, mais on y reviendra. Mais donc voilà, j'avais envie de parler de ces mecs toxiques qui reviennent beaucoup dans la fiction. D'ailleurs, qui reviennent souvent, à ce qu'il paraît, dans la fiction à destination des femmes, voire des jeunes femmes. Enfin, c'est ce qu'on dit, et on reviendra là-dessus. Pour commencer, j'aimerais qu'on se mette toutes et tous d'accord sur qu'est-ce qu'on entend par le mot toxique. J'ai fait un rapide tour dans le dictionnaire, j'ai trouvé quelques synonymes, nocif, nuisible, poison, j'ai aussi checké la définition, toxique, qui nuit à la santé, qui est dangereux pour la santé. Clairement, le mec toxique, il est pas là pour nous rendre heureuses, il est même plutôt là pour nous faire souffrir. After we made love, I knew it was over. Did I ever really love big? Or was I addicted to the pain? The exquisite pain of wanting someone so unattainable. Je vous avoue, à partir de là, j'ai essayé de faire une typologie du mec toxique et je suis pas sûre d'avoir réussi. Je sais même pas si on peut parler de trope en soi, d'un trope du mec toxique. Pour rappel au cas où, un trope, dans la fiction, c'est une figure narrative, une récurrence scénaristique. C'est pas forcément un cliché, c'est pas forcément un stéréotype parce que ces deux mots ont une connotation négative, mais ça s'en rapproche un peu. Au début, j'ai essayé de faire une liste des éléments qui permettraient de définir le mec toxique. J'ai sorti quatre gros traits de personnalité. D'abord, la manipulation, c'est souvent quelqu'un qui ment, qui fait du chantage. J'ai aussi pensé à la méchanceté dans son attitude, souvent de la méchanceté gratuite, les moqueries, le harcèlement, les insultes. Et puis aussi son comportement, c'est souvent un comportement qui est impulsif, qui est violent dans ses interactions, dans ses réactions. Et puis enfin, il y a son attitude. C'est quelqu'un qui est très possessif, qui est jaloux, qui peut même être obsessionnel. Il a vraiment une rivalité avec les autres hommes lorsqu'il s'agit d'avoir la femme en jeu, l'enjeu féminin. Il est clairement dans une attitude surprotectrice. Et c'est vrai que tous ces éléments mis bout à bout, ça entraîne clairement un rapport de force au sein d'une relation homme-femme. Un rapport de force qui est déséquilibré et qui est à la faveur de l'homme. Tous ces éléments instaure une ambiance qui peut dériver sur de la violence et qui est même de la violence en soi. On parle de méchanceté dans l'attitude, on parle de comportement impulsif, on parle d'attitude possessive, on parle de mensonge, de chantage, de manipulation. Ce sont clairement des red flags dans une relation. Alors j'ai essayé de trouver les personnages masculins toxiques dans la fiction qui répondraient à ces différents critères. J'en ai trouvé quelques-uns, je vais vous les lister, ils y sont pas tous, mais je pense que vous allez comprendre où je veux en venir. Il y a Edward Cullen dans Twilight, le général Kerrigan dans Shadow and Bone, Spike dans Buffy, Chuck Bass dans Gossip Girl, Ross Geller dans Friends, Cole dans Charmed, Joe dans You, Ted Mosby et Barney Stinson dans How I Met Your Mother, Tate Langdon dans la saison 1 d'American Horror Story, ou encore Ezra dans Pretty Little Liars. Ce que j'ai trouvé le plus intéressant en faisant cette liste de manière complètement spontanée, c'était de me rendre compte à quel point ces mecs toxiques, je les avais trouvés dans plein de genres différents. Je les ai trouvés dans du teen drama, dans de la sitcom, dans de la fantasy, dans du fantastique, dans de l'horreur. Ils sont clairement partout. Et surtout, ils sont variés. C'est-à-dire que si on s'amusait à faire un spectre du mec toxique, je pense qu'on pourrait mettre tout à gauche Ross Geller, qui est le mec charmant, marrant, avec un capital comique qui est indéniable, et tout à droite, Joe dans You, un tueur en série qui bute les femmes dès qu'elles l'ont déçu amoureusement. I'm hurt. I'm actually hurt that you would think I would send you any of those things out of anything other than love. Hurt.
Hurt. All right, Ross, I get it.
I mean, my You're God, hurt. Can't a guy send a barbershop quartet to his girlfriend's office anymore?
Mais dans un cas, comme dans l'autre, ces personnages sont appréciés du public. Et ça, je pense que c'est un critère qui est quand même intéressant. Ça peut être pour des raisons très variées. Ça peut être parce que, comme j'ai dit, pour Ross Geller dans Friends, il est drôle. Dans Joe, c'est parce qu'on n'a pas envie qu'il se fasse prendre. C'est même tout l'intérêt de la manière dont est construite cette série. C'est qu'on n'a pas envie que le tueur en série se fasse prendre. Et puis au milieu de tout ça, on peut avoir un personnage mystérieux, un personnage charismatique, un personnage énigmatique, mais en tout cas, ces personnages ont fait forte impression auprès du public. À se demander s'il n'y a pas un parti pris dans nos œuvres culturelles pour nous faire apprécier le mec toxique. Le mec toxique, donc, il est partout. On peut pas lui échapper, et on peut se demander pourquoi. En tout cas, moi je me suis demandé pourquoi. Alors souvent, moi ce que j'entends, c'est que le mec toxique, en fait, ça concerne les œuvres à destination des femmes, surtout à destination des jeunes femmes, et surtout dans la romance. Et ben moi je vous avoue que je trouve ça très réducteur, parce que les critères que j'ai évoqués précédemment, qui rentrent dans la catégorie de l'homme toxique, l'obsession, la jalousie, le harcèlement, la violence, la manipulation, la méchanceté, ben ce sont des caractéristiques qu'on ne retrouve pas que dans les hommes toxiques, dans les œuvres qui cibleraient les femmes.
I am not in danger, Skyler. I am the danger. A guy opens his door and gets shot and you think that of me? No. I am the one who knocks.
Ce genre de figures masculines fictives, on les retrouve aussi dans des œuvres dites tout public. On les retrouve dans les films d'action, les films d'horreur, les thrillers, les films de super-héros. Ces caractéristiques, elles sont même dans un ou plusieurs personnages, et encore plus intéressant, elles ne sont pas que dans le personnage méchant, dans le vilain. Mais alors, ça arrange pas mon affaire, pourquoi cette omniprésence? Pourquoi il y a des mecs toxiques partout dans la fiction? Eh bien moi je pense que la sociologie du genre peut nous apporter une première réponse. Dans les années 90, on a la sociologue Connell qui s'est intéressée à diverses formes de masculinité et ça lui a permis de réfléchir à une typologie de masculinité en quatre catégories. Et elle a donné un nom à une forme de masculinité parmi ces quatre qui est souvent considérée comme la masculinité la plus virile qui répondrait le plus au code du patriarcat et elle l'appelle la masculinité hégémonique. Alors pourquoi hégémonique? Ça veut pas dire que tous les hommes répondent à cette forme de masculinité, d'où le fait d'en avoir conceptualisé quatre, mais c'est celle qui est le plus en adéquation avec les attendus d'une société patriarcale. C'est vraiment l'archétype de l'homme, du mec. C'est vraiment l'homme dans sa manière la plus clichée, la plus virile, la plus ultra-masculine. Logiquement, cette figure de la masculinité hégémonique, on la retrouve dans nos œuvres de fiction, et donc aussi dans les œuvres à destination des femmes, et donc aussi dans la romance, puisque c'est vendu comme la forme idéale de la masculinité dans une société patriarcale. C'est vendu comme la forme la plus attirante de l'homme, une forme qui est glamourisée et qui est romanticisée. Seulement, ça pose problème. Pourquoi ça pose problème? On pourrait s'arrêter là et juste se dire qu'effectivement, la forme de la masculinité hégémonique, elle répond au code du patriarcat, c'est une forme très traditionnelle qui se repose sur les fondements de notre culture et puis basta. Mais en vrai, ça pose problème. Et ça pose problème puisque la définition d'une société patriarcale, c'est une société qui est créée par les hommes et pour les hommes. La femme, elle n'a rien à gagner face à la masculinité hégémonique. Elle a même tout à perdre, puisque va en découler toutes les dérives liées au patriarcat. Les agressions, la violence psychologique, verbale et physique. Et c'est pour ça aussi qu'en sociologie et en psychologie du genre, cette forme de masculinité hégémonique, on l'appelle la masculinité toxique. On y revient, la boucle est bouclée, on a parlé de mec toxique, on parle maintenant de masculinité toxique, parce que cette forme de masculinité, elle est destructrice. Littéralement, elle tue. Et donc, quel est l'intérêt à nous, les femmes, d'avoir ce genre de personnage masculin toxique dans la fiction? C'est toujours la même question de l'œuf ou de la poule. Si on écrit ce genre de figure toxique, et si par extension, on les apprécie, qu'ils nous attirent, c'est pas en fait la faute de la fiction en soi, même si on aimerait la responsabiliser. La fiction, elle n'invente rien. Elle ne fait que renforcer des valeurs qui existent déjà dans le monde réel. Par contre, on doit bien y trouver quelque chose pour les apprécier, non? Les femmes n'attirent pas de jouissance à voir d'autres femmes à l'écran dans des relations où elles sont maltraitées. Alors certes, ça peut faire écho à un vécu propre. Les femmes regardent des femmes souffrir dans des relations toxiques parce que ça leur rappelle leurs propres histoires. Mais ça peut pas s'arrêter qu'à ça, c'est beaucoup trop réducteur. Moi je pense qu'une première réponse peut se trouver dans le travail de la sociologue Janice Radway, dans son étude Reading the Romance. Alors je vais vous faire un gros résumé de cette étude parce que le but ça va pas être de revenir en détail dessus ni de vous la lire. Janice Radway c'est une chercheuse féministe qui à la base ne s'intéresse pas du tout à la romance pour la bonne et simple raison qu'elle considère que c'est un milieu de ses convictions féministes. Et c'est difficile de lui dire le contraire lorsqu'elle relève que dans la majorité des romans qu'elle a lus pour préparer son étude, il y a des scènes érotiques qui sont des scènes de viol à peine voilées où l'homme se comporte de manière violente, où l'homme outrepasse le consentement de la femme. Janice Radway, elle démontre à juste titre qu'il y a une récurrence dans ses romans de la figure masculine hégémonique et donc toxique. Et donc Janice Radway, elle se demande pourquoi autant de femmes apprécient ces romans? Est-ce qu'elles se rendent compte de ce qu'elles lisent ou pas, de la portée que ça a? Et est-ce qu'elles cautionnent et acceptent ce genre de comportement de la part des hommes dans le monde réel, au-delà de la fiction? Et donc, elle décide d'observer un club de lecture de romans à l'eau de rose. En fait, ce que Janice Radouet se rend compte déjà, c'est que ce club de lecture où ces femmes vont, ça leur permet de parler pas seulement du roman en question. Ça leur permet de prendre un moment pour elles avec d'autres femmes où elles se réunissent, où voilà, elles discutent de leur quotidien, de leurs enfants, mais aussi de leurs relations amoureuses, et puis voilà, de prendre un temps pour elles pour discuter avec d'autres femmes. Par contre, ce sur quoi elles s'arrêtent, c'est souvent la fin de ces romans. Qu'est-ce que nous disent la fin de ces romans? C'est souvent que l'homme change. L'homme change effectivement grâce à la femme, donc c'est à la femme de faire tout le travail relationnel et émotionnel, mais les hommes changent, ils finissent par s'adoucir, ils finissent par s'ouvrir, à faire preuve de sentiments, d'affection, ils font preuve d'une certaine passion, ils sont prêts à faire des sacrifices pour la femme qu'ils aiment. Et en fait, c'est ce que ces femmes désirent, c'est voir les hommes dans leur quotidien changer, puisque vraiment, Janice Radouet, elle voit un pont entre ce que les femmes lisent, ce qu'elles retiennent de ces fins, et ensuite, ce qu'elles racontent avec les femmes qui font partie du club de lecture. Someone like me is doing with someone like you. I should tell them I was hitting. I'm sorry, sweetheart. Tell them we're making love. How do I even... Alors bien sûr, le but, ce n'est pas de relativiser l'impact des hommes toxiques dans la fiction, le fait qu'ils sont partout, comme je l'ai démontré, et la manière dont c'est accepté, cautionné par le public, par les personnes qui les produisent et par notre société. Mon but, c'était plutôt de montrer comment, en fait, les femmes, elles arrivent à composer avec ça et ne pas croire qu'elles cautionnent forcément ce genre de configuration. Et ça n'en fait pas moins un discours qui est intéressant, qui est légitime et qui, pour moi, complète ce que dénoncent les féministes au quotidien. Alors de mon côté, je vais me permettre de vous expliquer ce que moi, j'apprécie avec les hommes toxiques dans la fiction. Moi, je retrouve des éléments qui m'aident et nourrissent mon féminisme quand je m'intéresse, quand je me penche sur ces hommes toxiques dans la fiction. Alors premièrement, ce que j'apprécie en fait, c'est la remise en question de la masculinité, ou du moins ses effets pervers. Moi, je vois pas forcément ces hommes toxiques qui sont représentés comme forcément une caution de leurs agissements et de leurs comportements. Pour moi, il y a vraiment une manière de dénoncer, parfois de manière plus ou moins subtile, tout ce qui est nocif avec la virilité et la masculinité au quotidien. Ce que j'apprécie aussi beaucoup avec ces personnages, qui sont souvent complexes, c'est qu'il y a forcément un moment, si ce sont des personnages intéressants, où il va se créer un arc de rédemption. Ou alors il y a une sorte de raison à leur toxicité. Sans surprise, comme ce sont souvent des personnages qui ne sont pas considérés comme faisant partie des gentils personnages, ce sont des personnages qui sont complexes. Et moi, ce que j'apprécie, c'est que ces personnages, en toute logique, normalement, à un moment ou à un autre, il doit y avoir un arc de rédemption qui se crée. Et c'est là où, en fait, le personnage masculin se met à travailler, où il se met à produire un travail relationnel, un travail émotionnel, pour se racheter. Et je trouve généralement que c'est intéressant de voir le cheminement qu'il va mettre en place pour y parvenir. Et enfin, ce que j'apprécie aussi, c'est l'impact que ça va avoir sur les autres personnages. Autant lorsqu'il est dans sa phase toxique que lorsqu'il est dans sa phase de rédemption, que ce soit avec le personnage qui entraîne la romance, qu'avec tous les autres personnages, je suis toujours intéressée par les tensions que ça va créer. Et quand je dis tension, je ne parle pas forcément des tensions sexuelles. De plus en plus, on voit sur les réseaux sociaux des jeunes femmes qui militent pour qu'il y ait de plus en plus de femmes toxiques dans la fiction. Alors je sais pas encore, je me suis pas décidée si j'étais d'accord ou non. Je trouve que c'est intéressant parce que justement, les hommes toxiques sont souvent des personnages très complexes qui ont mis du temps à être créés, à être écrits, en tout cas si on veut qu'ils soient bons. Et donc je pense qu'on devrait faire preuve du même travail, du même effort avec des personnages féminins, et pourquoi pas donc avec des personnages féminins méchants, voire toxiques. Ce qui m'amène à mon dernier point. Est-ce qu'il faut bannir la toxicité de la fiction? Eh bien vous l'aurez compris, je pense que non. Je pense que non, puisque la toxicité, il y a quand même une dimension qui est profondément humaine, que si on décide de l'exploiter à ce point, c'est qu'il y a forcément quelque chose, je pense, de cathartique et qui nous fait du bien. C'est pas forcément une jouissance qu'on trouve dans le fait de l'écrire, de la représenter, mais qu'en tout cas, ça permet de créer des discussions, de provoquer quelque chose à l'intérieur de nous, que ce soit du ressentiment, que ce soit de l'admiration, de la fascination, en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau de nos affects et qu'on mobilise et que je trouve hyper intéressante. Par contre, je pense qu'on peut en faire quelque chose de plus intéressant que la manière dont c'est le plus souvent exploité. Pour moi, la toxicité, elle doit avoir un but. Et quand je dis un but, ça ne veut pas forcément dire qu'on doit l'excuser auprès des personnages qui sont toxiques. C'est pas parce qu'on trouve une raison, qu'on trouve une origine à cette toxicité, que ça veut dire que ça l'annule. Mais en tout cas, je pense qu'on doit lui trouver une intention pour qu'elle ait de l'intérêt. Ce premier épisode de J'ai pas sommeil, le podcast pop culture et féministe, est terminé. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à le partager, à commenter et à vous abonner. Et on se dit à très bientôt pour le deuxième épisode. Salut!